franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
Famille, c'est votre thème du jour pour cette revue de presse.
Bah oui, c'est pas tous les jours qu'on reçoit dans le studio une famille presque au grand complet, alors j'en profite. Famille divorcée, recomposée, hétéro ou homo, 3 semaines que le synode des évêques planche sur la question à Rome et on s'approche de la conclusion. Un texte final doit être soumis demain au vote, alors révolution ou statu quo. Si la Croix se félicite d'une liberté de parole inégalée, elle raconte aussi comment le synode a fait l'objet de perturbations et de coups tordus en tout genre. Perturbation car la réunion des évêques s'est ouverte avec le coming out homosexuel d'un prélat polonais. Coup tordu quand la presse italienne fait état d'une tumeur au cerveau du pape François, démentie depuis par le Vatican. Mais tout le monde s'emballe alors pour dénoncer une tentative de déstabilisation du souverain pontife. Résultat des courses, eh bien le pape est aujourd'hui face à un blocage, nous dit Cécile Chambreau dans Le Monde. Blocage entre les partisans du changement et ceux qui s'interdisent toute évolution sur la famille au nom de la doctrine. La question de l'homosexualité, par exemple, serait même absente du texte final. Des divergences largement liées au contexte culturel de chacun des représentants de l'Église. Pour une partie des évêques, notamment en Afrique, écrit la journaliste, infléchir ne serait-ce que le discours pour mieux accueillir les croyants engagés dans toutes les formes de famille contemporaine, hétérosexuelle ou pas, risquerait d'être perçu comme une autorisation implicite à ce qu'ils perçoivent toujours comme des dévoiements. Alors afin de contourner la difficulté et d'échapper au statu quo, le pape pourrait du coup se lancer dans une autre réforme, celle de la décentralisation de l'Église. Elle permettrait d'apporter des réponses locales à des situations locales. Le problème, c'est qu'il toucherait là à l'unité même de l'Église catholique. Bref, ça n'a pas l'air plus simple de réformer l'Église que la France, diront certains.
Famille encore avec l'annulation donc hier de l'émission politique des paroles et des actes avec Marine Le Pen.
Bah ouais, on ne devrait pas en parler, mais on en parle quand même. En 1984, à l'heure de vérité, son père avait imposé 1 minute de silence en mémoire des millions d'hommes tombés sous les dictatures communistes, disait-il. Eh bien, sa fille a fait plus fort hier, imposant 3 heures de blackout. Si j'avais été obligée de payer, je n'aurais jamais obtenu une publicité plus efficace, se rengorgeait-elle hier. Confession faite au Figaro. Tout est dit, ou presque, s'agissant de son gain personnel, Marine Le Pen au centre ou barycentre du débat pour toute la presse ce matin. Alors la faute à qui ? Aux autres, affirme l'opinion. François Hollande, qui veut faire de Marine Le Pen un épouvantail. Nicolas Sarkozy, un tremplin. Le Figaro note tout de même que la stratégie adoptée ces dernières heures par le président du parti Les Républicains n'est pas forcément bien comprise dans son propre camp, en s'alliant objectivement avec Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, dont il avait oublié le nom il y a encore quelques mois, pour s'élever contre le traitement médiatique réservé à Marine Le Pen. Eh bien, Nicolas Sarkozy redonne du crédit à l'accusation du MPS, cher au FN, et contribue à redonner à Marine Le Pen le rôle de la victime. Alors ses adversaires auront beau ironiser sur sa peur du débat, relève l'éditorialiste Guillaume Tabar, l'argument aura du mal à prendre, car ce n'est pas le défaut qui lui est généralement imputé. Et pourtant, la peur de plonger les mains dans le cambouis régional est peut-être à l'origine de la défection de Marine Le Pen. C'est la Voix du Nord qui pointe cet élément. En refusant le débat avec ses concurrents régionaux hier, Xavier Bertrand et Pierre de Saint-Ignon, elle a esquivé ce qu'elle aime le moins, écrit Hervé Favre, son programme régional. Les accusations de dérobade pourraient d'ailleurs poursuivre la candidate, si comme le laisse entendre son entourage, dit le journaliste, elle pratique aussi la politique de la chaise vide mardi à Lille. Oui, mardi à Lille où est prévu un nouveau débat à trois, alors ira pas, nouveau feuilleton en vue. 30 ans après Anne, ma sœur Anne, malheureusement, vous le disiez, Louis Chédid, on en est encore là.
10 ans après la mort de Ziad et Bouna, Clichy-sous-Bois et des émeutes qui ont brasé les quartiers. Retour sur le drame, sur ce drame dans la presse ce matin, Hélène.
Oui, en famille aussi, en quelque sorte, au plus près de ceux qui ont vécu ce drame. Témoignage dans l'Obs sous le titre « Je me souviens de Clichy-sous-Bois ». Adèle Béna, le frère de Ziad. Il touille son café à n'en plus finir, gratte et regratte les bords de sa tasse. Dans sa tête aussi, il remue le drame. Ce qu'Adèle Béna raconte, c'est l'immense déception. Au moment du drame, il se retrouve à sillonner les rues avec ses parents pour appeler au calme. On protégeait la France, croit-il alors, convaincu que la mort de son frère, c'était le fait d'un ou deux policiers, mais pas d'un pays. Mais au printemps dernier, coup fatal, les policiers poursuivis sont relaxés. La France est devenue un cauchemar, dit Adèle. L'islamophobie et le racisme ne font qu'enfler. Adèle et sa femme ont décidé que c'était fini. Ils quittent la France. Le médiateur Yazid Kerfi, qui a assisté aux émeutes, qu'il n'y ait pas eu de heurts majeurs depuis 10 ans, m'inquiète, dit-il. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à fuir dans des mondes parallèles, business, djihad. Les émeutes étaient, dit-il, un signe d'espoir. Elles témoignaient au moins d'un besoin d'être entendues par la société. Et maintenant, alors l'ex-footballeur Lilian Thuram retient, lui, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Une poignée d'opportunistes pseudo-intellectuels accusent Thuram, attisent le racisme chez des gens apeurés dans un contexte social violent, mais la réalité est tout autre. Au quotidien, dit-il, nous nous mélangeons en fondant des familles. Et puis pour finir, le témoignage de Xavier Lemoine, le très droitier maire de Montfermeil, qui à l'époque se répandait sur les plateaux de télé pour dénoncer la peur des Français de souche, les musulmans qui versaient dans le radicalisme. Eh bien, curieusement, aujourd'hui, c'est lui le plus optimiste. Après un vaste programme de rénovation urbaine dans sa ville, il dit que le repli communautaire s'est estompé chez lui. Il parlerait des heures, paraît-il, de la fête des cultures où on se réapproprie ses origines à Montfermeil. C'est un vrai revirement. Et puis on termine, et ça n'a rien à voir, par un père de famille pour le moins iconoclaste. Le Point a rencontré le papa des Trois Brigands. C'est la bande dessinée puis le dessin animé culte pour les enfants. C'est un portrait à lire rien que pour l'attaque du papier. Alors je vous la livre. L'autre jour, à la terrasse d'un café parisien, il a hélé une mère assise avec son nouveau-né. « Qu'il est beau, votre bébé !» Remerciement de la maman. « Vous me le vendez ?» a-t-il ajouté sans sourire. « C'est pour un barbecue. » Tête consternée de la jeune femme, colère du père et fou rire de Tommy Ungerer. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir Louis Chédid pour papa.
C'est votre conclusion. Merci Hélène Jouan pour la revue de presse.